Voilà, eh bien, chers amis, bonsoir et merci d'être venus à cette dernière rencontre de la série « Les institutions religieuses en France dans leur lien avec les autorités politiques ». C'est un sujet qui a une double actualité cette année, puisque 1925, c'est donc les 120 ans de la loi de 1905, et par la même occasion, les 120 ans de la Fédération protestante de France, qui s'est créée cette année-là, 1905, mais c'est aussi les 100 ans de la création de l'association diocésaine pour ce qui concerne l'Église catholique. Et donc c'est un double anniversaire symbolique et réel, juridique, qui permet de mieux comprendre comment le catholicisme, puisque ce soir nous allons parler de l'Église catholique, se positionne institutionnellement devant les autorités. Et l'association diocésaine a évidemment un rôle important. Et on le verra d'ailleurs, aura le rôle le plus important, en vérité, dans cette affaire-là. Peut-être rappeler aussi, en finale de cette série de quatre interventions, combien en arrière-plan des sujets que nous avons abordés se dessine donc ce qui va petit à petit s'appeler la laïcité dans notre compréhension de la société française, une forme d'aménagement du lien entre les religions et la République, une forme de vivre ensemble des confessions religieuses avec les autorités publiques, quelque chose qui s'est petit à petit mis en place en France, mais aussi en Europe, la laïcité n'étant pas une invention française, et comment, au fond, au fil des années et des siècles, la laïcité est devenue une forme pondérée, démocratique et finalement assez consensuelle, malgré tous les débats qui existent, de ce lien entre les confessions religieuses et les autorités publiques. De sorte que l'on peut dire sans se tromper que, contrairement à ce que certains pourraient croire, l'idée de la laïcité n'est pas une idée révolutionnaire, loin de là. C'est d'ailleurs une manière très idéologique de présenter la laïcité en disant qu'elle est une idée révolutionnaire. Elle ne l'est pas du tout. Elle est au contraire le fruit d'un long processus d'émancipation réciproque de la sphère du religieux et de la sphère du politique. Je vous rappelle d'ailleurs à cet égard que cette lente évolution et ce long processus d'émancipation réciproque des deux sphères politiques et religieuses commence très tôt en Europe, commence avant la Réforme, bien évidemment, mais au temps de la Réforme, au XVIe siècle, se trouve inscrit dans les textes. Je pense en particulier à la Confession d'Augsbourg, donc de 1530, hein, où deux articles sont consacrés à précisément cette distinction entre la sphère religieuse et la sphère politique. Et le luthéranisme, puisque la Confession d'Augsbourg est le texte majeur de la confession de foi luthérienne, le luthéranisme marque bien la différence, la distinction, non pas l'ignorance réciproque, mais la différence et la distinction entre ces deux sphères, du politique et du religieux. Et c'est une affaire qui va donc prospérer au cours des siècles et va trouver, selon les pays, selon les cultures, selon les nations, des modalités plus ou moins différentes, plus ou moins marquées au sceau de la séparation ou, au contraire, au sceau de la collusion. Et je vous donne ainsi deux références. C'est Jean Bobéro, le sociologue des religions et l'historien, qui montre comment, au fond, la laïcité en France a connu trois seuils. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très évolutif. C'est la Révolution française, c'est le Concordat, on y reviendra tout à l'heure, et c'est enfin la fameuse loi 1905. Donc trois seuils de laïcité, trois seuils de laïcisation de la société pour ce qui concerne la France. Mais évidemment, nous déclinons ces seuils de manière assez différente, assez spécifique, selon les pays. Je pense en particulier à l'Allemagne, bien évidemment, enfin à ce qui était d'abord l'Empire, et puis ensuite la nation allemande, et puis évidemment l'Angleterre, ou la Grande-Bretagne, ou la Suisse, qui a connu d'ailleurs, et qui connaît encore, un régime très contrasté selon les cantons Que l'on soit à Genève, par exemple, où le modèle est celui de la loi 1905, une séparation entre l'État genevois et l'Église, ou au contraire, dans tel canton de Berne, par exemple, de Zurich, où l'Église est une Église cantonale, enfin une Église d'État, et où le clergé protestant, en tout cas, est rémunéré par le citoyen. Et donc, cette laïcité est une affaire européenne. C'est une affaire européenne. C'est une affaire en process, en processus, en devenir. C'est une modalité à la fois culturelle, politique, juridique et évidemment spirituelle, puisque vivre sa foi dans un pays laïque, c'est aussi trouver la juste mesure entre la sphère de l'Église, la sphère confessionnelle et la sphère étatique, la sphère de la République. On pourrait dire, pour terminer ce long propos introductif, que nous sommes passés, en tout cas en France, d'un modèle de collusion, c'est le modèle du concordat sur lequel je reviens tout à l'heure, où l'État a la prétention affichée de contrôler le culte, et en particulier le culte catholique, à un modèle de coexistence, c'est la loi de 1905, une coexistence apaisée, en tout cas la plus apaisée possible, et donc c'est une laïcité d'intelligence, comme je l'ai évoqué déjà, je crois, la semaine dernière, à ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une laïcité, donc non plus de collision ni de coexistence, mais une laïcité d'exculturation. Le mot est un petit peu barbare, mais vous voyez ce qu'il signifie, cette idée au fond que les cultes sont amenés à être rendus périphériques dans la fabrication de la loi déjà, et puis dans la constitution même de la société, une forme de sortie plus ou moins volontaire du religieux, du champ social. Et cette laïcité, ce modèle d'exculturation est donc celui que vit aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la laïcité d'indifférence, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont plus rien à dire, ni à faire, ni que faire de la religion. Et voyez comment passer d'une laïcité de contrôle à une laïcité d'intelligence et maintenant à une laïcité d'indifférence nous fait passer quand même d'un monde à un autre. C'est-à-dire que ce qu'ont connu les chrétiens, catholiques et protestants et les juifs pendant la période du Concordat n'a que peu à voir avec ce qu'ont connu ces mêmes catholiques et ces mêmes chrétiens à partir de 1905 et n'a que peu à voir non plus avec ce qui nous attend demain, c'est-à-dire un moment où le religieux sera exfiltré. Là, je prends une métaphore des services secrets, mais enfin, quelque chose qui sera vraiment du domaine du privé, du clandestin, du secret, du discret, en tout cas du non-significatif au plan de la fabrication même des cadres de la société dans les temps qui viennent, avec un deuil à faire, évidemment, très douloureux, comme tous les deuils, un deuil à faire de ce rôle du religieux dans la fabrication de la société. Alors, ici, j'entends déjà les remarques qui vont surgir et que vous n'allez pas manquer de faire à l'issue de ce propos, c'est que quand je parle d'exculturation et de laïcité d'indifférence, je n'oublie pas que, par ailleurs, les religions dont il s'agit ne restent pas inactives, ne restent pas éteintes, ne restent pas passives. Il y a effectivement des mouvements de réactivation convictionnelle, des mouvements de réarmement identitaire et des mouvements de radicalisation qui essayent de faire pièce à ce processus d'exculturation. Et Dieu sait combien le catholicisme en particulier est traversé par ce mouvement qu'on pourrait appeler un mouvement identitaire. Je ne parle pas des traditionalistes. Hein, les traditionalistes sont hors champ de l'Église catholique. Mais je parle des mouvements identitaires au sein de l'Église catholique. Donc ce tiers, au fond, ce tiers de l'Église catholique aujourd'hui qui revendique un catholicisme offensif qui n'a pas peur d'affirmer ses convictions, qui même trouvent les occasions et les moyens de réaffirmer les grandes thématiques doctrinales de l'Église, telles qu'elles ont été établies, notamment sur les questions éthiques. Et ce mouvement, donc, à la fois d'exculturation et d'indifférence des autorités publiques, se trouve donc mise en cause, mise en question, contestée par ces mouvements de réaffirmation convictionnelle, que l'on trouve aussi dans d'autres confessions. Je pense en particulier évidemment à l'islam, mais je pense aussi au protestantisme, avec en son sein tout un courant qu'on peut appeler, avec les deux guillemets qu'il faut, évangélique, mais qui réaffirme très fortement des positions, et là encore sur les questions éthiques, puisque c'est sur ces questions éthiques notamment que la loi passe et qu'il faut bien rendre compte de ses convictions. Avec donc cette remarque générale introductive, la question plus générale encore de savoir, au fond, comment être religieux dans ce pays si l'on n'est pas identitaire, sans prendre le risque de se perdre, de se dissoudre, enfin de ne plus exister. Et c'est ce qui guette, c'est ce qui est en train de clôturer le chapitre du libéralisme, enfin de la vision libérale de la religion, autant chez les catholiques que chez les protestants, que chez les juifs, où ce libéralisme est en train de rendre les armes, n'ayant plus rien à apporter, ayant été lui-même instrumentalisé à bien des égards par les autorités. Et donc on est là devant une espèce d'injonction paradoxale, exister alors que les mouvements de fond de la société contestent cette existence même de la religion. Et les sociologues des religions ne s'y trompent pas lorsqu'ils étudient de près le sujet, voyant bien la difficulté des institutions à survivre dans un tel contexte. Ça va jusque-là ? C'est clair ? Alors, aujourd'hui, donc, nous allons focaliser notre attention sur le quatrième et dernier culte, mais non pas le moindre, dans notre pays, c'est le culte catholique. C'est non pas le plus ancien, mais à ce jour le plus nombreux, et celui qui, paradoxalement, n'est peut-être pas le plus organisé, n'est peut-être même pas le mieux organisé par rapport aux différents cultes. Et je pense en particulier à son rapport au judaïsme et au protestantisme, qui ont connu certes des difficultés, des moments difficiles, mais qui n'ont pas connu les crises avec l'intensité qu'il a connue donc au cours de ces deux siècles. Il y a, on va dire, quatre moments de crise dans le catholicisme français, dans son rapport institutionnel aux autorités, qui ont failli mal tourner, enfin qui ont vraiment été des moments très difficiles. C'est évidemment la Révolution française, avec la contestation de la source divine du pouvoir politique. C'est le peuple qui est souverain et non pas Dieu. Donc cette souveraineté revendiquée par le peuple et qui est le disque dur de la République et du discours républicain démocratique, cette revendication conteste de plein fouet l'affirmation doctrinale catholique. Et contre le droit de Dieu s'affirment les droits de l'homme. Donc la déclaration des droits de l'homme est effectivement une revendication explicite, claire, nette, d'une autonomie et d'une liberté qui est totalement émancipée par rapport aux prescriptions religieuses et en particulier donc catholiques. Donc la Révolution est vraiment un moment, non pas charnière, mais un moment critique, un moment révélateur, un moment clivant. Et d'ailleurs, le clergé lui-même va être amené à se déterminer là-dessus. Certains refusant absolument ce clivage, d'autres se lançant à corps perdu dans l'évolution du pays. Le deuxième moment, c'est le Concordat, donc 1801, mais pas que le Concordat, c'est aussi les articles organiques Alors on les appelle comme cela parce que ce sont des articles qui sont liés justement au Concordat et qui déclinent au fond la philosophie du Concordat que Napoléon va mettre en place avec Rome et qui concerne évidemment l'Église catholique. Le troisième moment, c'est la loi de 1905 qui va rendre le culte catholique hors la loi et qui va obliger la République et l'Église catholique à